VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Rebonsoir à tous, Tatiana Mosso et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue à l'édition de ce 4 septembre 2015. À la une ce soir, Tatiana.
Cameroun, 20 à 40 tués dans le double attentat suicide à Kerawa.
Au Burundi, la police a bouclé tous les quartiers contestataires de la capitale.
Au Mali, le président Ibeka peine à réaliser ses promesses de campagne après 2 ans de pouvoir.
Tout le monde le sent, économiquement, rien ne va. Les gens n'arrivent plus à subvenir aux besoins minimum de leur famille.
Le gang unique, la journée de travail continu est instaurée dans le pays des hommes intègres.
C'est pas favorable pour nous. Nous travaillons beaucoup avec l'administration. Je sais que le début sera dur et ça sera dur pour notre milieu.
Crise des migrants en Europe, l'ONU a plaidé auprès de l'Union européenne pour l'admission de 200 000 demandeurs d'asile. Le Haut Commissariat aux réfugiés milite pour aider le flot de migrants.
Ne manque pas nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Muzaga, un quartier au sud de Bujumbura au Burundi, était toujours bouclé ce vendredi par des policiers et militaires. Jeudi soir, un policier aurait été tué et 2 jeunes blessés entre 2 avenues où des tirs nourris ont été entendus. Muzaga est un des hauts lieux de la contestation du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le point avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Le quartier Muzaga était encerclé ce matin par les forces de l'ordre et des militaires. Ces derniers étaient postés à chaque avenue, interdisant la population d'aller et de sortir. Les boutiques, marchés étaient inaccessibles pour les habitants de cette localité, fer de lance depuis avril dernier des manifestations anti-troisième mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza. Jeudi soir, vers 19h, un policier qui était de garde près d'un cabaret a été attaqué à la grenade. Il aurait succombé à ses blessures et les autres militaires ont alors tiré à l'aveuglette, blessant 2 personnes, selon les habitants de Muzaga. Les 4 ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Sécurité publique et de la Justice, en compagnie du nouveau maire de la ville, se sont rendus ce matin dans plusieurs quartiers contestataires pour tranquilliser et demander également aux habitants de remettre les armes qui ne font que causer de la violence. Signalons que la police indique que les 52 jeunes arrêtés hier soir ont été relâchés ce matin pour détendre une situation qui était tendue depuis plusieurs jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, les autorités ont évacué au moins 200 blessés après le double attentat suicide d'hier à Kerawa, ville frontalière avec le Nigeria dans l'extrême nord du Cameroun, une région en proie aux attaques des islamistes nigériens de Boko Haram. Un dernier bilan fait état de 20 à 40 morts. N'est-ce pas, Jacques Aristide?
Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux des villes voisines car l'unique établissement de santé de Kerawa ne pouvait pas les accommoder. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication.
Une jeune dame qui portait donc la bombe l'a détonée au marché du mil et des arachides. Malheureusement, nos compatriotes ont perdu la vie, beaucoup d'autres ont été blessés. Au moment où les autres cherchaient donc à se mettre à l'abri, fuyaient dans cette zone d'attaque, c'est le moment donc mis à profit par un autre attaquant qui portait donc la bombe, qui l'a détonée. Et là également, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes sont tombés. Au total, nous déplorons à l'heure où je vous parle, nous déplorons 20 de morts et 145 personnes ont été blessées.
5 attentats suicides attribués à Boko Haram ont frappé la même région au cours du mois de juillet, faisant 50 de morts. Le Cameroun est engagé dans une coalition régionale contre Boko Haram aux côtés du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin.
Morel et Prom au Gabon stoppent sa production suite au percement d'un oléoduc. La compagnie française a annoncé vendredi l'arrêt total de sa production, seul pays où elle produit actuellement du pétrole en raison de l'indisponibilité d'un oléoduc. L'opérateur a notifié à Morel et Prom une situation de force majeure. Cet oléoduc relie une zone forestière reliant le gisement de Koukal à Cap Lopez.
Et au Nigeria, les violences de Boko Haram et leur répression par l'armée nigériane ont déjà causé au moins 15 000 morts et plus de 2,1 millions de déplacés en 6 mois, soit depuis le début de l'insurrection des islamistes. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le regain des attaques des insurgés et la multiplication des actions armées ont alourdi les dégâts depuis l'arrivée au pouvoir fin mai du président Muhammadu Buhari.
Au Mali, un soldat a été tué et 7 autres blessés lors d'une attaque survenue hier jeudi dans le centre du pays, selon des sources gouvernementales.
Et en Égypte, 6 soldats de la force multinationale d'observateurs FMO, dont 4 Américains, ont été blessés hier par l'explosion de 2 bombes. Celles-ci étaient placées sur une route du Sinaï, bastion du groupe État islamique en Égypte, selon des responsables égyptiens et américains de la sécurité.
Les négociations entre Libyens sous l'égide des Nations Unies ont repris hier à Genève et devaient se poursuivre aujourd'hui, a annoncé l'ONU dans une note envoyée aux médias. L'Algérie, le Niger et le Tchad tiendront dimanche à Alger une réunion consacrée à la situation en Libye, minée par les violences meurtrières et les rivalités politiques, a annoncé hier le ministre algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, crise des migrants en Europe, l'ONU a plaidé auprès de l'Union européenne pour l'admission de 200 000 demandeurs d'asile. Le commissariat aux réfugiés, ACR, milite pour un programme de réinstallation de masse afin d'aider le flot de migrants. Jean-Roger Billon a les détails.
Antonio Guterres a demandé de mettre en œuvre un programme qui obligerait tous les États de l'Union européenne à venir en aide aux réfugiés qui ont une raison légitime de solliciter une protection. Si l'Union européenne reste divisée sur la question, a ajouté le patron du HCR, la crise ne profitera qu'aux passeurs et aux trafiquants. Le premier ministre britannique David Cameron a fait savoir que la Grande-Bretagne est prête à recevoir des milliers d'autres ressortissants de la Syrie, en plus des 5 000 déjà acceptés. Un incident a signalé ce vendredi à Bishkek, en Hongrie, des centaines de réfugiés ont refusé de descendre d'un train à destination de l'Allemagne qui a étendu à 800 000 sa capacité d'accueil des migrants. Les passagers du train refusaient notamment de se faire recenser et parquer dans des camps en violation de la loi hongroise. Par ailleurs, 300 migrants ont mis à sac un camp d'accueil à Roske, près de la frontière serbe selon les autorités hongroises.
Un milliardaire égyptien, Naguib Sawiris, propose d'acheter une île au large de l'Italie ou de la Grèce pour y installer des centaines de milliers de migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Et en plus, la Grande-Bretagne promet 100 millions de livres, soit 137 millions d'euros d'aide supplémentaire pour la crise humanitaire en Syrie. Le Premier ministre Cameron cède à la pression et annonce qu'il va accueillir des milliers de réfugiés. Il aura fallu 24 heures au Premier ministre britannique pour changer d'avis et affirmer que son pays était prêt à accueillir des milliers de réfugiés syriens supplémentaires face à l'émoi suscité par les images d'un petit garçon noyé sur la plage.
Et ici aux États-Unis, le président Barack Obama a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche le roi Salman d'Arabie Saoudite. C'est la première visite du souverain wahhabite depuis son accession au trône en janvier dernier à la mort du roi Abdallah. Les précisions d'Idrissa Seydoudi.
Ces discussions entre le président Obama et le roi Salman se tiennent à un moment critique pour leurs deux pays. Les États-Unis combattent à la tête d'une coalition les djihadistes du groupe État islamique en Irak et en Syrie, tandis que l'Arabie saoudite dirige sa propre coalition pour repousser les rebelles chiites houthis au Yémen. Le président Obama l'a souligné en recevant le roi Salman.
We share a concern about Yemen and the need to restore.
Nous partageons des inquiétudes concernant le Yémen et la nécessité de mettre en place un gouvernement qui fonctionne, un gouvernement inclusif et qui puisse répondre à la situation humanitaire. Pour sa part, le roi Salman a déclaré. En remerciant le président Obama pour son hospitalité, le roi Salman a déclaré que sa visite était le symbole de la relation forte et profonde entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Pour citer le numéro 2 du Conseil national de sécurité, Ben Rhode, il s'agit d'une visite importante à un moment important compte tenu de beaucoup de développements dans une région où Washington et Riyad ont des intérêts communs, de la récente conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien et du suivi du sommet de Camp David avec l'Arabie saoudite et 4 autres partenaires du Golfe.
22 soldats émirats tués au Yémen par une explosion dans un entrepôt de munitions. Le bilan le plus lourd en 6 mois d'engagement au sein d'une coalition arabe dans ce pays, selon des sources émiraties et yéménites. La coalition arabe a été mise en place fin mars par l'Arabie saoudite pour soutenir le président du Yémen voisin contre les rebelles chiites.
Retour ici aux États-Unis où le taux de chômage a reculé à son plus bas niveau depuis avril 2008, juste avant la crise financière, même si les créations d'emplois en août ont été décevantes selon les chiffres du ministère du Travail publiés aujourd'hui, vendredi. Le taux de chômage est descendu à 5,1% contre 5,3%, dépassant les attentes des économistes, même si l'économie n'a créé que 173 000 emplois en août. Un chiffre décevant pour les analystes qui tablaient plutôt sur 217 000 nouvelles embauches. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minuteco ce soir avec Claire Morin-Gibault.
La Côte d'Ivoire et la compagnie pétrolière américaine Anadarko ont conclu un accord pour un forage exploratoire dans une zone offshore que se disputent Abidjan et le Ghana, selon un communiqué du gouvernement ivoirien. Le gouvernement a salué l'accord dans un contexte de forte chute des cours du pétrole. En 2014, des recherches en eau profonde au large de la Côte d'Ivoire avaient été qualifiées de très prometteuses par le groupe français Total. Le géant minier anglo-américain Platinum veut vendre ses mines de platine en Afrique du Sud. La baisse des cours de 40% depuis 2011, ajoutée à une grève de 5 mois des mineurs en 2014, a fait diminuer les bénéfices. Le gouvernement sud-africain, les sociétés minières et les syndicats se sont réunis pour négocier une réduction des 19 000 licenciements envisagés. Le Cameroun mise sur le cacao. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café veut tripler le volume de transformation des fèves de cacao à court terme, en passant de 33 000 tonnes à 100 000 tonnes par an. À travers un programme d'appui aux initiatives locales de transformation du cacao, le gouvernement camerounais ambitionne de créer 10 unités de transformation du cacao à travers le pays.
Voilà pour la Minuteco. Merci Claire.
Regard sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Tatiana, bonsoir à tous.
Week-end de foot en Afrique?
Oui, les principales nations du foot africain se rendent ce week-end chez des autres Saoudais, mais avec des équipes amputées de stars, à l'image de la Côte d'Ivoire qui débute son parcours de qualification à la CAN 2017 sans son capitaine Yaya Touré. Le Togo s'est imposé 2-0 à Djibouti ce vendredi et a ainsi pris la tête du groupe A de qualification à la CAN 2017. Avant l'autre match de la deuxième journée, Libéria-Tunisie, ce sera demain à Monrovia. Serge Akakpo a ouvert le score donc pour le Togo assez vite à la 4e minute et Jonathan Ayité l'a scellé à la 41e minute pour les éperviers privés de leur capitaine Emmanuel Adebayor, 100 ans de jeu en club à Tottenham en Angleterre. Tous les autres matchs de cette deuxième journée de qualification se disputent samedi et dimanche. Dans le groupe B, la RDC, sans Mbokani et sans aussi son capitaine Mulumbu blessé, se rend à Bangui pour affronter dimanche les fauves du Bazou Bangui. Et Antananarivo, Madagascar, reçoit les Palancas Negras d'Angola. Dans le groupe C, demain samedi, match entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. Dimanche, le Mali, sans son emblématique capitaine Seydou Keïta, se rend à Cotonou pour affronter le Bénin de Sessegnon.
Et en cyclisme, 13e étape du Tour d'Espagne, Bagassi.
Oui, c'est le Portugais Nelson Oliveira de l'équipe Lampre Mérida qui s'est imposé en solitaire à Tarazona. C'est dans l'Aragon où l'Italien Fabio Aru de l'équipe Astana a conservé son maillot rouge de leader avant d'aborder dès samedi un triptyque en haute montagne. Le triple champion du Portugal contre la montre a distancé ses compagnons d'échappée après l'ultime difficulté du jour et malgré un fort vent. Il a livré un joli numéro de soliste pendant une trentaine de kilomètres. Le Français Julien Simon de Cofidis a pris la deuxième place en réglant l'échappée au sprint devant l'Irlandais Nicolas Roche de Sky.
Merci Bagassi. Vous aussi, vous allez faire du sport ce week-end?
Probablement, oui.
Bon week-end. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Eric Manilakiza, votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Tatiana.
Le Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta totalise aujourd'hui 2 ans à la tête de l'État, malgré son engagement à rendre aux Maliens leur honneur et dignité en trouvant une solution à la crise qui sévit au nord du pays. Ses promesses peinent à se réaliser. Les détails avec Kassim Traoré.
C'est le 4 septembre 2013 que le président de la République du Mali a été investi à la magistrature suprême du Mali, héritant d'un pays qui sortait d'une triple crise institutionnelle, sécuritaire et socio-économique. 2 ans après l'arrivée d'Ibeka à Koulouba, comment se présente la situation, docteur Oumou Keïta?
2 années très dures, très dures, comme on peut le dire. Tout le monde le sent. Économiquement, rien ne va. Les gens n'arrivent plus à subvenir aux besoins minimum de leur famille. Et en un mot, c'est la mauvaise gouvernance. Pendant ces 2 ans, bon, même si c'est trop tôt, on n'a pas eu de satisfaction. Et on ne voit même pas de lueur. S'il ne fait pas attention, les Maliens sont en train de perdre espoir sur son cas.
Beaucoup de Maliens gardent espoir, sans quoi les promesses présidentielles tardent à se concrétiser, comme nous l'explique Salia Cissé, jeune chômeur.
Jeune diplômé sans emploi, on nous a promis beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on ne sent rien. Parce que déjà, quand le président est élu, il a trouvé que le pays n'était pas aussi stable. Bon, sur ces procédures-là, on voit que ça va de plus en plus parce qu'il y a eu des signatures, des accords, ça reste l'application des accords. Donc on reste optimiste.
Les Maliens sont pressés de voir les choses se réaliser. Pour ces fonctionnaires, cela n'est pas possible car le pays n'était pas dans la stabilité. Madi Diabaté, fonctionnaire.
Il est venu dans un état où le Mali avait des difficultés et pendant tout le temps qu'il est là, ces difficultés n'ont pas été anéanties. De deux, que ce soit l'amunissement ou que ce soit l'État français, qui est notre partenaire de tout le temps, il y a un manque de confiance qui semble exister, en tout cas dans l'appréciation des uns et des autres. Sont-ils là réellement pour nous aider ou sont-ils là pour d'autres buts que nous ne saurons connaître de vue?
Force est de reconnaître que la situation de défense et de sécurité n'est pas rassurante au Mali. Chaque jour, constituant son lieu de victimes civiles comme militaires. Madi Diabaté.
Qu'on n'ait pas l'impression d'être lié à l'amunissement ou à la France ou autre pays pour notre sécurité. La sauvegarde de notre sécurité, notre défense est une valeur intrinsèque qui dépend de notre armée. Et qu'on ne soit pas tout le temps en train de déplorer ce qui se passe. Tous les jours, tu apprends un Malien est mort. Un soldat est tombé en embuscade. Est-ce que sur le front, on doit être surpris?
Les 2 ans d'Ibeka au Mali, c'est aussi l'impunité, la corruption et la mauvaise gouvernance. Pour les 3 ans à venir, le président malien doit changer le fusil d'épaule s'il veut donner aux Maliens leur dignité et leur honneur comme il l'a tant chanté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, l'administration publique bascule dans la journée de travail continu à partir du 15 septembre prochain. Désormais, les services vont ouvrir à 7 heures du matin pour fermer à 15h30. Chaque fonctionnaire aura droit à une pause de 30 minutes. C'est la décision du gouvernement en Conseil des ministres. Et l'objectif visé, réduire le train de vie de l'État. Zoumana Wanogo, correspondante de VOA Afrique à Ouagadougou, donne les détails.
C'est un conseil des ministres décentralisé à Fadan-Gourma, la région est du Burkina frontalière avec le Niger, que le gouvernement a décidé l'institution de la journée continue dans l'administration publique burkinabé. Pour une surprise, s'en fit une pour les syndicats. Nobila Ouedraogo, secrétaire chargé de la formation à la CGTB, Confédération Générale du Travail.
Quand vous prenez des secteurs comme l'éducation, la santé, ce sont des secteurs assez particuliers. Alors donc, quand on instaure la journée continue dans sa globalité, il faut voir jusqu'où ces secteurs-là sont pris en compte dans leurs spécificités. Même quand vous regardez le reste, ce n'est pas seulement pour les travailleurs salariés. L'administration publique, il y a les usagers. Quelles sont les dispositions qu'on prend? Même du point de vue psychologique, moral, il faut pouvoir voir quelles sont les mesures d'accompagnement. La journée continue vise en réalité à réduire le train de vie de l'État. Est-ce que concrètement on a pris les dispositions pour ça?
La donne journée continue préoccupe au plus haut point le secteur informel, c'est-à-dire toute cette grande masse de petits commerçants. Seydou Zangré, Le président de l'association jeunesse du secteur informel le dit.
C'est pas favorable pour nous. Nous travaillons beaucoup avec l'administration. Donc quand on dit que ces journées continuent, si tu rates le matin, ça veut dire qu'il faut attendre. Tes marchandises sont venues, tu veux aller, on dit que non, ils ont fait journée continue. Je sais que le début sera dur et ça sera dur pour notre milieu. Parce que chez nous, généralement, c'est les heures creuses, entre 12h et 15h, que les gens ont le temps de faire des achats ou les week-ends.
La journée continue qui va changer les habitudes préoccupe aussi Madame Traoré, surtout dans son volet école.
Moi, je préfère qu'on ne tienne pas compte des écoles pour la journée continue.
C'est vrai que ça va jouer un peu sur les enfants parce qu'il n'y aura pas de suivi. Peut-être qu'il faudra instaurer le système des cantines scolaires pour les enfants qui logeront loin de l'école.
Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre de la journée continue, suivant la réponse de Augustin Loada, le ministre burkinabé de la fonction publique.
D'abord, il faut que nous mettions en place, et nous sommes en train de finaliser ce dispositif, un système de contrôle pour que les agents soient présents à leur lieu de service. Bien entendu, il y a la question de la restauration qui doit être prise en compte, mais je sais déjà que c'est une pratique qui est répandue dans nos services et donc l'État peut accompagner les différents acteurs, mais il appartient aux agents également de s'adapter à ce système que nous mettons en œuvre lorsqu'il y a des événements comme par exemple le FESPACO, le CIAO.
Zwana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Centrafrique, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la classe politique et de la société civile pour réclamer le report des élections législatives et présidentielles prévues le 18 octobre prochain. Les raisons invoquées sont liées aux difficultés de démembrement électoral et à l'insécurité qui persiste dans la région du centre-est du pays. Pour le gouvernement, la balle est dans le camp de l'Autorité nationale des élections. Dominique Seyd Panguinji, porte-parole du gouvernement, joint par Félix Yepassi-Zamrou.
Visiblement, ce chronogramme ne peut pas être respecté pour la simple raison que certaines opérations ont accusé un léger retard. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique donc, d'une révision de ce chronogramme par l'Autorité nationale des élections.
Justement, en ce moment, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander le report de ces élections-là. Et puis hier, vous avez dit que la balle est dans le camp de l'ANE. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est vrai, comme je l'avais affirmé, on va avoir un léger glissement de quelques jours, mais qui ne va pas remettre en cause tout le processus électoral. Donc on va aller aux élections, et comme j'ai eu à le dire, dans la durée de la transition telle que prorogée par la conférence des chefs d'État donc, de la CEAC. Le gouvernement inscrit son action dans la dynamique d'organiser les élections dans le cadre donc, de la durée de la transition. Donc le gouvernement fera tout, absolument tout, pour que les élections puissent avoir lieu dans les délais de prorogation de la transition. Et donc, s'il y a un glissement, eh bien, on va le faire accepter selon le processus, le principe qui a toujours prévalu, à savoir le consensus.
Mais pour l'instant, on signale quelques cas d'insécurité, notamment dans l'est, dans le centre-est du pays. Cela ne va-t-il pas poser encore un problème quant à l'organisation de ces élections, monsieur le ministre?
Bien, effectivement, aujourd'hui, il y a quelques poches d'insécurité dans le centre, dans le centre-est du pays. Et donc, ces poches d'insécurité sont en cours de traitement avec le concours de la mission des Nations Unies. Là, je veux citer la MINUSCA qui est présente sur le territoire national.
C'était Dominique Saïd Pagenji, porte-parole du gouvernement, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En RDC, c'est la République démocratique du Congo. Les élèves reprennent le chemin de l'école lundi prochain. Mais de nombreux parents ne sont pas encore prêts, notamment pour des raisons financières. Le reportage est signé Bero Matanda de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prévu au 7 septembre prochain, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la reprise de cours pour les bleus et blancs doit être effective selon les autorités de la ville. Dans les écoles, on se dit prêt pour accueillir les écoliers dès les premières heures du lundi matin. Ngomanzao César est préfet des études à l'Institut Pumbu, situé à l'UPN dans la commune de Ngalema.
Nous sommes prêts à accueillir les enfants le jour de la rentrée. La première chose que nous faisons pour notre préparation, c'est de faire l'état des lieux, mettre la propreté dans la cour, dans les locaux. Au bureau, nous arrangeons un peu les archives, nous mettons de côté et puis nous allons renouveler les dossiers pour cette année ici. Arranger pour préparer aussi la rentrée des enseignants, certains élèves. Nous les préparons déjà, qu'ils ne puissent pas prolonger les jours de vacances.
À quelques jours de cette rentrée scolaire, certains parents ne sont pas encore en mesure d'acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants à cause du manque d'argent.
Je ne suis pas prêt. En tout, je n'ai pas d'argent pour préparer la rentrée scolaire, pas de cahier, le tout. Bref, la rentrée pour moi, c'est déjà un échec. À moins qu'un miracle du ciel puisse se faire. Et les enfants sont dans la détresse parce que jusque-là, ils ne voient rien.
Non, à moitié. Puisque là, vous savez, la semaine passée, j'étais au grand marché pour essayer les uniformes de l'enfant. De mettre un mètre pour l'uniforme bleu, c'était à 3000 francs. Et aujourd'hui, c'est à 5000 francs. Uniforme blanche, un mètre, c'était à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est à 2000 francs. Donc, moi, j'ai trois enfants. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Puisque là, je suis prête seulement pour un enfant et demi. Donc, j'ai tout acheté pour un enfant. Pour le deuxième, j'ai juste acheté des cahiers. Pour le troisième, je n'ai pas acheté. Et pour l'autre, deuxième, là, j'ai acheté uniquement des cahiers. Est-ce que vraiment, monsieur le ministre, marquez à moi, pouvez-vous même pas demander aux vendeurs des tissus d'uniformes ou bien de baisser le prix? Dans les écoles, là, on vend les uniformes très chers.
Pas tout à fait prêt. Oui, d'ailleurs, je viens de faire quelques achats. Je n'ai pas pu tout acheter.
Pour les vendeurs des fournitures scolaires, la difficulté est tout autre. La tracasserie policière occasionne beaucoup de pertes dans leurs ventes. Difficile pour eux aussi de réunir l'argent nécessaire pour envoyer leurs enfants à l'école.
Les agents de l'ordre nous tracassent tous les jours. Nous ne savons même plus bien vendre. Nous sommes appelés à être sur le qui-vive parce que nous ne savons pas par où ces agents peuvent surgir. Il n'y a même pas moyen d'exposer tous les articles par crainte de les perdre. Nous sommes aussi parents. Si nous ne vendons pas, nous ne saurons pas retourner nos enfants à l'école. Que les autorités fassent quelque chose.
Entre-temps, la rentrée des classes en RDC est maintenue pour le 7 septembre prochain. Kinshasa, Bero Matanda de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show, entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, c'est la fin de ce journal à la mise en onde ce soir. Issiaka, présentation Tatiana Monceau et Eric Manilakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans un instant.
Le monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Brazzaville,
sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.